22h et vous écoutez Europe 1. Tout de suite le journal, Marguerite Lefèvre.
Bonsoir à tous, à la une de l'actualité ce soir. Ça suffit, message du ministre de l'Intérieur aux Gilets jaunes. Christophe Castaner appelle les manifestants à lever les blocages, mais sur les ronds-points, hors de question de baisser les bras. Nous serons à Nice dès le début de ce journal. La mobilisation des Gilets jaunes qui coûte cher, 2 milliards d'euros de pertes pour les centres commerciaux, pertes également pour les sociétés d'autoroutes à cause des opérations péage gratuit. Vinci Autoroutes entend faire payer les automobilistes. C'est une information Europe 1, le crédit d'impôt pour la transition énergétique sera réélargi. Il s'appliquera de nouveau pour le changement de fenêtre. Également à la une, les policiers menacent de faire grève. Certains appellent à bloquer les commissariats mercredi. La page des sports avec du foot et le tirage au sort de la Ligue des Champions. Le PSG et Lyon auront fort à faire en huitième de finale. Du hand également, les Françaises championnes d'Europe ont été reçues à l'Elysée ce soir. En fin de journal, la météo complète d'Elena Morna. La bourse, ce sera avec Didier Hameau de boursier.com. Et puis l'invité écho d'Emmanuel Dutheil à 22h20. Ce soir, Jean-Claude Puerto Salaver, le directeur général d'UCAR, le réseau de location de voitures.
Europe 1.
Cela fait 5 semaines qu'ils se mobilisent. Certains bloquent leur rond-point jour et nuit. D'autres choisissent les opérations coup de poing, les manifestations le samedi dans la capitale. La colère des Gilets jaunes ne s'est pas éteinte malgré les annonces d'Emmanuel Macron. Mais cette colère doit cesser, selon Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. Il y a eu 8 morts. Cela suffit, a-t-il déclaré en marge d'une visite aujourd'hui. Des déclarations accueillies fraîchement par les Gilets jaunes de Nice qui ont bien l'intention de continuer le combat, Jacques Terrance.
Oui, exactement. Ces Gilets jaunes rejettent l'argument de la sécurité et notamment les 8 morts évoqués par Christophe Castaner. C'est un prétexte, disent-ils, pour les faire partir. Ici à Nice, ils sont encore une bonne trentaine ce soir dans un campement qui continue de s'agrandir autour d'un grand feu et même un sapin de Noël. Le ton est donné. Cette retraitée très en colère n'a pas prévu de partir de sitôt.
Même s'ils nous foutent dehors d'un rond-point, on ira dans un autre. Les impôts, on les paye. C'est chez nous aussi ici. Alors moi, s'il faut que je prenne des coups dans la gueule à 60 ans, bah, je vais prendre des coups dans la gueule, mais je vais me battre jusqu'à mourir, mais je vais me battre pour mon fils, pour moi et pour les autres.
Voilà, beaucoup de colère. Et Marina, comme Bertrand, un autre retraité venu ici ce soir, malgré, comme il le dit, sa moto à 20 000 euros, eh bien c'est pour reprendre le pouvoir et obtenir ce fameux RIC, le référendum d'initiative citoyenne.
Je veux plus de responsabilités citoyennes. Alors on va pas, bien sûr, sur toutes les lois, amener notre grain de sel, mais sur des choses importantes. Par exemple, le 80 km/h, est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre un référendum pour dire est-ce que vous, citoyens, vous êtes d'accord pour passer à 80 km/h?
Voilà, alors en attendant, les manifestants niçois guettent une éventuelle opération de police pour les déloger. Mais pour l'instant, côté préfecture, ce n'est pas prévu tant que ces gilets jaunes restent sur le côté du rond-point et laissent s'écouler le flot de circulation.
Jacques Terrance à Nice pour Europe 1. Les blocages se poursuivent donc sur les routes, sur des ronds-points, devant les centres commerciaux également, pris pour cible depuis le début de ce mouvement. Résultat, c'est un manque à gagner, irrécupérable pour de nombreux groupes. C'est ce que déplore Gontran Turing, le délégué général du Conseil national des centres commerciaux.
On estime aujourd'hui le manque à gagner sur l'ensemble de la période à environ 2 milliards d'euros. On doute de pouvoir récupérer tout chiffre d'affaires qui ne s'est pas fait pendant plus d'un mois. On a formulé plusieurs demandes auprès du gouvernement. La première, c'est que les consommateurs puissent accéder aux centres commerciaux, puisqu'un certain nombre d'accès ont été bloqués ces dernières semaines. La deuxième demande consiste donc à élargir les possibilités d'ouverture dominicale. Et puis la dernière demande, il y a un certain nombre de taxes qui portent sur le commerce physique, qui ne porte pas sur les entrepôts des pure players. Et on trouverait normal que les e-commerce également contribuent à cette taxe.
Le délégué général du Conseil national des centres commerciaux, il répondait à Maud Descamps. Conséquences donc pour le commerce, conséquences également pour les sociétés d'autoroutes. Depuis le début du mouvement, certains gilets jaunes se mobilisent sur ces voies rapides pour laisser passer les usagers gratuitement. Vinci Autoroutes a aujourd'hui l'intention de demander aux automobilistes de payer ces péages qu'ils ont passés sans aucun frais. Écoutez Maître Lesage, il est l'avocat de Vinci Autoroutes.
Les sociétés d'autoroutes considèrent que même si les barrières de péage étaient levées, les automates, eux, n'avaient pas été détruits et que les automobilistes qui passaient au péage avaient quand même la possibilité de payer, et donc elles devaient payer le péage même si les barrières étaient levées par les gilets jaunes. Comment est-ce qu'on voit qu'un automobiliste n'a pas payé le péage? Eh bien, il y a des caméras de surveillance. Les sociétés d'autoroutes, depuis plusieurs années, ont accès direct un système de lecture de plaques, donc elles peuvent voir qui n'a pas payé le péage.
Et donc plusieurs automobilistes, des centaines, des milliers d'automobilistes vont recevoir chez eux un courrier des différentes sociétés d'autoroutes leur réclamant de payer la facture, tout simplement.
c'est-à-dire payer le péage qui n'a pas été réglé, et en principe ne pas payer son péage, c'est une contravention de deuxième classe, c'est 35 euros. Mais je crois que les sociétés concessionnaires ont dit qu'il n'y aurait pas de poursuite forfaitaire de 35 euros pour ceux qui n'ont pas payé.
Maître Lesage, l'avocat de Vinci Autoroutes, il était l'invité de Mathieu Béliard tout à l'heure. Et pour être tout à fait complet sur cette actualité des Gilets jaunes, sachez qu'Emmanuel Macron reçoit demain les ministres et plusieurs acteurs économiques. Il sera question de la grande consultation nationale annoncée par l'exécutif. Emmanuel Macron qui sera donc à Paris demain. Il a décidé d'annuler son déplacement à Biarritz. Le chef de l'État devait participer à une réunion préparatoire en vue du G7 qui se tiendra l'été prochain dans le Pays Basque. C'est une information que vous avez entendue sur Europe 1 tout à l'heure. Le crédit d'impôt sur la transition énergétique sera réélargi. Il concernera de nouveau le changement de fenêtre. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Transition énergétique, François de Rugy, sur notre antenne tout à l'heure. Il était l'invité de Mathieu Béliard.
Nous allons réélargir le crédit d'impôt transition énergétique au changement de fenêtre. C'était un sujet qui avait été beaucoup débattu avec les professionnels du bâtiment. Nous allons avoir un dispositif qui sera plus efficace que par le passé, c'est-à-dire que ce sera vraiment une aide pour les gens qui passent de fenêtre en simple vitrage à fenêtre en double vitrage. Cela sera plafonné parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de subventionner n'importe quel type de fenêtre. Donc, 100 euros par fenêtre.
Mais 100 euros par fenêtre sous forme de crédit d'impôt, François de Rugy ?
Sous forme de crédit d'impôt, bien sûr, dont peuvent bénéficier tous les Français, hein, que l'on paye des impôts ou que l'on n'en paye pas. L'année dernière, par exemple, il y a eu 700 000 Français qui ont fait des travaux dans leur logement pour des travaux d'efficacité énergétique.
François de Rugy qui était l'invité d'Europe Soir tout à l'heure. Paris n'attendra pas l'aval de Bruxelles. La France taxera les géants du numérique dès le 1er janvier prochain. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'économie Bruno Le Maire. L'État entend donc taxer ce qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook et Amazon. Quels seraient les contours et les retombées de cette taxe ? Toutes les précisions de cette mesure avec Anne-Laure Jumet.
Dès le 1er janvier prochain, les géants du numérique seront taxés. La France veut les frapper au portefeuille sans attendre l'éventuelle adoption de cette taxe au niveau européen, car il y a urgence à trouver des financements pour tenir les promesses présidentielles. Bercy en attend 500 millions d'euros. Alors cette taxe portera sur le chiffre d'affaires, mais pas seulement. Elle s'étendra aux revenus publicitaires et à la revente de données personnelles, et ce sur l'ensemble de l'année 2019. Google, l'un des premiers groupes ciblés, a déjà indiqué qu'il paierait cette taxe si la loi l'exige. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires déclaré en France est de 325 millions d'euros, mais ses recettes publicitaires sont beaucoup plus importantes. Alors impossible pour autant de savoir combien le groupe paiera d'impôts en plus l'an prochain, car quand on cherche à savoir auprès de Bercy quel pourcentage sera appliqué, on nous répond que c'est trop tôt. On ne sait pas non plus quelles seront précisément les entreprises concernées par cette taxe. Ce sera manifestement plus large que les géants dont on parle. Le sujet devrait être tranché d'ici quelques mois, puisque l'idée, c'est d'intégrer cette mesure à la loi Pacte sur la croissance et la transformation des entreprises. Un texte qui revient à l'Assemblée en mars prochain.
Les explications d'Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. Ils avaient attaqué l'État en justice, dénonçant des contrôles aux faciès dont ils s'estimaient victimes. Trois lycéens d'Épinay-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis, ont été déboutés aujourd'hui. La discrimination ne pouvant être fondée selon les juges. Ces trois lycéens, contrôlés Gare du Nord l'an dernier alors qu'ils rentraient d'un voyage de classe, ont décidé de faire appel. Ils ont été réquisitionnés tous les samedis depuis 5 semaines pour sécuriser la mobilisation des Gilets jaunes. Les policiers veulent désormais passer à l'acte pour dénoncer leurs conditions de travail et le manque de moyens. Le syndicat Alliance appelle à un blocage total des commissariats ce mercredi, acte 1 de leur mobilisation. Écoutez Frédéric Lagache, secrétaire général adjoint d'Alliance.
À l'heure actuelle, nous n'avons reçu aucun coup de téléphone du ministre de l'Intérieur, aucun coup de téléphone du président de la République. Face à cette irresponsabilité, nous sommes obligés d'être irresponsables dans nos actions jusqu'à bloquer nos commissariats, mais bien évidemment répondre aux appels urgences. Mais au-delà des appels urgences, nous demandons à nos collègues de rester dans les commissariats. C'est-à-dire que le travail d'initiative, c'est terminé. Au-delà des poignées de main, comme quoi on est les plus beaux et les plus forts, nous ce que l'on veut, c'est des actes forts et une annonce présidentielle, un plan Marshall pour les policiers, pour améliorer leurs conditions de vie, pour améliorer leurs conditions de travail. Et tant que nous n'aurons pas cette annonce, nous continuerons nos actions.
Frédéric Lagache du syndicat Alliance, joint pour Europe 1 par Alain Acco. Au Yémen, le cessez-le-feu doit entrer en vigueur dans moins de 2 heures à Hodeïda. Il sera appliqué, assure l'ONU, alors que les combats se sont poursuivis ces derniers jours, malgré l'accord conclu jeudi dernier en Suède. La Loire-Atlantique sera-t-elle un jour bretonne ? Les élus du département se sont prononcés contre ce lundi, mais ils ont
ouvert la voie à un référendum. La Loire-Atlantique appartient aujourd'hui à la région Pays de la Loire, mais plusieurs associations militent pour son rattachement à la région Bretagne. Il est 22h10 sur Europe 1 et en football, on connaît désormais les affiches des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Tirage compliqué pour les deux clubs français encore en lice. L'OL devra réaliser un exploit face au FC Barcelone de Lionel Messi. Et le PSG, quant à lui, affronte Manchester United, un club au palmarès impressionnant, mais qui vit un début de saison compliqué, Julien Froment.
Oui, c'est un club mythique, mais qui a perdu de sa splendeur. Manchester United, cette saison, n'y arrive pas, seulement sixième du championnat anglais. Son entraîneur, le portugais José Mourinho, n'a plus vraiment le diable au corps. Ses choix sont très critiqués outre-Manche. Il ose même mettre le français Paul Pogba, champion du monde, sur le banc. Alors oui, à l'instant T, Manchester United est un adversaire à la portée du PSG. Mais l'entraîneur parisien Thomas Tuchel est beaucoup plus nuancé.
Dans cette club à PSG, on manque des expériences de jouer des quatre finales et des demi-finales. Et on doit respecter les clubs qui ont cette expérience. Et Manchester United, par exemple, c'est un club qui a beaucoup d'expérience dans cette compétition. Si tu joues à Old Trafford contre Manchester United, nous sommes capables de gagner. Mais c'est un grand défi.
Autre équipe tricolore concernée, l'Olympique Lyonnais. Et là, c'est peut-être le pire des tirages. Ils héritent du FC Barcelone et de ses stars Messi, Suarez, Dembélé. L'OL devra en plus jouer le match aller le 19 février sans sa vedette Nabil Fekir, qui est suspendu. Match retour prévu le 13 mars au Camp Nou pour une mission qui s'annonce quasi impossible.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1, ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions se joueront donc entre le 13 février et le 13 mars. Elles sont toujours en train de savourer leurs défis, elles l'ont relevé haut la main. Les handballeuses françaises sont championnes d'Europe depuis hier soir. C'est le premier titre européen pour une équipe de France féminine. Les médaillés d'or ont été reçus à l'Élysée ce soir. Écoutez la toute jeune Pauline Quatanea qui a découvert, médaille autour du cou, le palais présidentiel.
Ben ouais, ça m'a fait bizarre parce que les filles sont arrivées tranquilles, c'est normal, on est à l'Élysée. Mais pour moi, c'était impressionnant et c'était super de voir le président, de voir qu'il a salué notre performance. Ça m'a fait très plaisir et pour moi, je savoure ces moments parce qu'ils sont rares et ils sont exceptionnels.
Qu'est-ce qu'il vous a dit, le président ?
Qu'il était fier. Il avait demandé aux joueuses l'année dernière de réitérer cet exploit à la maison en gagnant 7 euros. On est là, on a respecté ce qu'il a dit et il nous a dit qu'on était exemplaires et ça fait plaisir parce que c'est ce qu'on veut montrer aux gens et il est fier de nous aussi et pour nous c'est un honneur.
Il vous a pas fixé un autre petit challenge ? Les jeux au hasard ?
Ah ouais, non, mais il est trop dur avec nous là, il faut qu'on a envie de savourer avant de penser aux autres choses. Mais oui, il nous a mis déjà la pression sur les jeux de Tokyo en 2020, mais... Bon, d'abord, on va se prendre une petite semaine de vacances.
Pauline Quatanea au micro de Christophe Lamar. Et puis en tennis, on connaît désormais le nouveau capitaine de Coupe Davis. Il s'agit de l'ancien numéro 4 mondial, Sébastien Grosjean, qui sera également responsable de la délégation masculine au JO de Tokyo. Il succède donc à Amélie Mauresmo, qui elle a décidé de s'engager à temps plein auprès de Lucas Pouille. Un peu de musique pour terminer ce journal. Nous sommes ravis ce soir de pouvoir vous dévoiler une partie du programme des Vieilles Charrues, festival dont Europe 1 est partenaire. Parmi les têtes d'affiche, le groupe de pop anglais, Tears for Fears, David Guetta, Chris, Booba, Zazie ou encore Ben Harper. Ben Harper qui se produira donc l'été prochain aux Vieilles Charrues à Carré dans le Finistère. Le festival se tiendra du 18 au 21 juillet. L'été et les Vieilles Charrues, on n'y est pas encore. Mais Elena Morna, à l'approche du solstice d'hiver, les températures deviennent printanières.
Bien oui, le solstice d'hiver c'est vendredi et pourtant la douceur va s'accentuer. Demain, après les gelées matinales dans le nord-est, le centre et la Bourgogne, on ira jusqu'à 18 degrés dans le Pays Basque et les Hautes-Pyrénées, 15 à Marseille et Ajaccio, 13 pour Bordeaux, 12 à Brest, à Clermont-Ferrand et Nîmes, 10 à Lyon, 8 à Paris, 7 à Lille. Or plus frais, c'est vrai, sous les brouillards persistants à Strasbourg avec 3 degrés demain après-midi. À propos de brouillard, justement, ils ne se lèveront pas sur les frontières du nord-est, sur l'Alsace et le Val-de-Saône. Ailleurs, ce sera un ciel voilé, un voile de plus en plus dense qui arrive par l'ouest. et il atteindra les régions du sud-est l'après-midi. Un voile moins épais quand même sur le sud-ouest. Alors sur le Languedoc et les Bouches-du-Rhône, là, c'est le vent marin qui sera porteur de nuages. Sur la Bretagne, là aussi, on aura des vents forts, hein, jusqu'à 100 km/h et de la pluie. Pluie qui gagnera le Cotentin l'après-midi et balayera le pays d'ouest en est dans la nuit. La suite, c'est un défilé pluvieux jusqu'en fin de semaine et de la grande douceur pour le week-end avec des pointes à 15 degrés sur la moitié nord, jusqu'à 20 degrés sans doute dans le sud.
Merci, c'était la météo d'Elena Morna. Europe 1. Dans un instant, on fera le point sur la bourse avec Didier Hamon. Et puis juste après, Emmanuel Duteil reçoit le patron du CAR, Jean-Claude Puerto Salaver. Ce sera l'interview écho, comme tous les soirs. Restez avec nous. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Il est 22h16, vous êtes bien sur Europe 1, l'heure de parler de la bourse avec Didier Hamon de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Marguerite.
Wall Street poursuit sa baisse pour débuter la semaine.
Forte baisse, ça se passe pas bien. Dow Jones en repli de plus de 2%, 2,11%, 23 593 points. Ça continue, le Nasdaq moins 2,27%, ça purge à 6 754 points. Alors que le bras de fer commercial se poursuit entre les États-Unis et la Chine sur fond de crainte de fort ralentissement économique. Dans ce contexte, la réserve fédérale est attendue au tournant demain et mercredi pour la dernière réunion monétaire de l'année. La Banque centrale américaine devrait malgré tout relever ses taux directeurs pour la quatrième fois de l'année, entre 2,25 et 2,5%. Après, il y aura sans doute une pause, vu la dégradation de l'activité économique aux États-Unis. Donc, les valeurs de technologie baissent encore fortement, ça continue. Apple, moins 1%, 164$. Intel, moins 1,6%. Microsoft, moins 3%. Cisco, moins 3,5%. IBM perd 3,2%. Et Amazon lâche même 4,5%. Dans ce contexte de faiblesse économique, on va dire, en tout cas des anticipations faibles, le pétrole chute, rechute sous les $50, $49,50 le baril, en baisse de 4% ce soir. L'euro, lui, résiste mieux sur les 1,1350 face au dollar.
Un mot de la Bourse de Paris à présent qui restait dans le rouge aujourd'hui.
Oui, qui recule aussi, moins 1,11%, 4 799 points. Donc on repasse sous les 4 800 points. C'est la troisième séance de baisse. Les craintes de ralentissement économique plombent certains secteurs, en particulier l'automobile. Renault, moins 1,7%, Michelin, moins 1,4%, Peugeot, moins 0,7%. Puis les bancaires aussi reculent, Société Générale, moins 2,7%. Crédit Agricole, moins 2,2% et BNP, moins 2,4%. À noter Sopra dans les services informatiques qui chute de plus de 11%, 77€. Là, c'est Morgan Stanley, le broker, qui ne vise plus qu'un cours de 75€ sur le dossier Sopra. Puis Ingenico perd 7,4%, 53,14€, alors que le groupe Ingenico va finalement rester indépendant.
Exception du jour, Didier, le titre Nicox qui a grimpé de 12%.
Ça flambe, oui, de plus de 13%. On est à 13,1% de hausse, exactement 5,25€ après un accord exclusif avec le laboratoire Ocumension pour la commercialisation de son candidat médicament contre le glaucome en Chine. Nicox en profite largement avec cette forte hausse de plus de 13%. Sur les autres places financières, ça baisse partout. Le DAX à Francfort, moins 0,8%. Bruxelles, moins 1,6%. Madrid, moins 0,9%. Milan, moins 1,1% et le CAC 40 moins 1,11%, 4 799 points.
Merci, c'était Didier Hamon de Boursier.com. 22h19 sur Europe 1, l'heure comme tous les soirs de retrouver l'interview écho d'Emmanuel Duteil ce soir. Emmanuel, vous recevez Jean-Claude Puerto Salaver, le PDG du CAR, le réseau de location de voitures.
Bonsoir Jean-Claude Puerto-Salaver.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête du CAR. CAR, c'est l'un des grands noms de la location de voitures en France. Et si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est que vous lancez une innovation. Vous nous dites, tiens, votre voiture, elle vous coûte environ 279€ par mois. Environ, que vous avez calculé de façon quand même assez précise. Et si vous avez une vieille voiture avec laquelle vous n'allez bientôt plus pouvoir rouler dans Paris, vous allez donc devoir en changer ou dans d'autres centres urbains. Et vous, votre idée, c'est de dire, eh ben nous, pour le même prix, on va vous la louer, mais la petite contrepartie, c'est vous devez me la prêter de temps en temps.
On va vous proposer une voiture neuve pour le même prix, à condition que vous puissiez nous la proposer de temps en temps. Pour le même prix, ça veut dire que vous allez nous la mettre en pension 7 jours par mois environ. Pas forcément 7 jours consécutifs, quand vous ne l'utilisez pas.
Il faut juste qu'on s'engage à pouvoir la laisser, la libérer 7 jours par mois.
Voilà, exactement. Pour 7 jours par mois, eh bien, vous paierez la même chose que ce que vous coûte aujourd'hui votre très vieille voiture.
Mais au bout du bout, la voiture, elle est à qui ? Elle est à moi ou elle est à vous ?
Alors, on est sur...
Parce qu'on est sur de la location de longue durée.
On est sur de la location de longue durée. On est sur une offre de leasing. Et donc, vous aurez la possibilité de la racheter.
On aura la possibilité de la racheter. Alors, c'est une offre pour les urbains comme moi, qui ai une voiture un petit peu ancienne, qui en plus elle est diesel, donc j'aurais peut-être envie de me mettre en conformité et avoir une voiture un peu plus propre, ou c'est vraiment une offre pour tout le monde ?
C'est une offre pour tout le monde, qui s'adresse à la fois aux urbains, à la fois aux zones rurales. Demain, on partagera tous nos voitures. Les voitures, il y a 40 millions de voitures, dont 15 millions ont plus de 10 ans, et ces 15 millions de voitures doivent disparaître. Elles polluent trop, elles sont dangereuses, et évidemment, si on n'a pas de voiture neuve, c'est qu'on n'a pas les moyens d'avoir une voiture neuve. Ouais. Grâce au partage, en zone rurale comme en zone urbaine, on va avoir ces moyens-là.
Mais en zone urbaine, on peut le comprendre parce qu'il y a une grande densité de voitures. On utilise moins la voiture puisqu'on ne l'utilise pas bientôt tous les jours. Mais là, on le voit très bien en travers de cette crise des gilets jaunes. Qu'est-ce que nous disent les gens ? C'est arrêtez, j'ai besoin de ma voiture tous les jours, j'ai besoin de rouler beaucoup. Et puis, bah, je l'avais acheté à l'époque au diesel parce que ça me coûtait moins cher.
Oui, moi j'étais choqué, en colère par cette réglementation qui arrive de manière assez brutale. Il n'y avait pas de solution alternative. Hein. Et juillet 2019, c'est demain. Et après, je me suis dit, mais c'est normal. Il faut bien réglementer pour interdire ces vieilles voitures. Et c'est à nous, les entrepreneurs, de proposer des solutions. Et je crois que là, il y a une vraie solution. Est-ce qu'elle est adaptée pour tout le monde ? Peut-être pas, il y a des gens qui ont besoin de leur voiture 365 jours par an, mais il y a des gens qui ont besoin de leur voiture 365 jours par an en la prenant pour faire une course à 400 mètres. On peut aussi marcher, on peut aussi rendre sa voiture disponible. Non, je crois que pour 90% de la population, on peut partager sa voiture. Et si c'est pour payer deux fois moins cher, si c'est pour faire ces économies-là, bah écoutez, moi je crois que c'est formidable.
Et donc là, c'est une offre que vous lancez. Hein. Ce n'est pas les voitures de location traditionnelles que l'on peut voir du car partout en France. Là, c'est vraiment une offre parallèle. C'est notre voiture qu'on utilise au quotidien. Elle n'est pas logotée Ucar comme ça partout dans les rues, on est d'accord.
Ah, je crois qu'on s'est mis les pieds derrière en disant il y a un problème au 1er juillet, il faut le résoudre et on va... Alors, la mise en pension, on l'avait déjà lancée.
Hein, on accueille déjà depuis cette idée.
Mais on l'a intégrée à une offre de voitures neuves. Et effectivement, c'est chacun pourra choisir sa voiture dans un panel que j'espère le plus large possible. Aujourd'hui, on n'a pas toutes les marques, tous les constructeurs. Mais j'espère qu'ils vont nous rejoindre.
Vous les avez sentis sensibles, justement, à cette idée, les constructeurs. Ils ont envie de jouer le jeu.
Ça, c'est une question importante. On les attend au virage. On regarde comment ils vont se comporter avec nous. Oui, on a eu des manifestations positives, des manifestations de curiosité bienveillante, positive. Et j'espère qu'ils vont nous aider, j'espère que les assureurs, que les financiers vont nous aider. C'est une vraie révolution de société qui s'offre à nous. On ne la fera pas tout seul. Il faut embarquer le gouvernement. Il faut des primes à la transition.
Mais c'est-à-dire que là, l'offre est lancée. Hein. Si on vous a invité ce soir, c'est que vous l'avez annoncé la semaine dernière. Vous avez déjà combien de voitures en stock, entre guillemets ? Vous êtes prêts à ce que là, tous les auditeurs de repas qui sont en train de nous écoutez, tiens, j'ai envie d'essayer, vous pouvez y répondre.
On est prêt, on n'a pas tous les modèles et on espère que demain on en aura beaucoup, mais on est prêt à assumer notre proposition, bien sûr.
Mais vous gagnez combien, vous, sur tout ça ? Parce que vous n'êtes pas philanthrope, vous avez flairé la bonne idée.
Écoutez, je crois que ce n'est pas une bonne idée, ça fait 30 ans que je travaille là-dessus. Ucar, quand je l'ai créé, c'était la coopérative automobile. J'ai cette obsession de voir partager des voitures et mon entreprise doit gagner sa vie normalement. Mais je crois que... on est au-devant d'une grande révolution dans la consommation automobile et la priorité, c'est vraiment d'offrir une solution en gagnant correctement notre vie, raisonnablement.
Vous le sentez déjà aujourd'hui que des gens lâchent totalement leur voiture parce qu'ils s'en servaient assez peu et viennent de plus en plus pour partir en vacances, en week-end, etc. Susciter des offres de location ?
Oui, il y a un tiers de la population qui nous dit vouloir partager sa voiture. Il y a une partie de la population qui aura besoin de garder sa voiture en responsabilité. En général, c'est des gens qui utilisent leur voiture plus de 7 jours par mois. Ouais. Et ceux qui utilisent la voiture moins de 7 jours par mois, ben ils ont intérêt à ne pas avoir de voiture en responsabilité, de ne pas être propriétaire ou de ne pas louer en longue durée. Ils ont intérêt à picorer dans notre parc.
La loi mobilité qui va être votée là par le Parlement va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a des dispositions très claires pour le covoiturage, pour les voitures électriques. Par exemple, si on covoiture, on aura des voies qui seront réservées ou possiblement réservées sur les autoroutes demain, ça va dans votre logique.
Oui, ça va dans notre logique. Moi, j'aime la voiture et je crois que je ne suis pas tout seul. Il y a 40 millions de voitures en France. J'aime la voiture pour la liberté qu'elle nous donne. Cette liberté est irremplaçable. Alors effectivement, je crois qu'on est nombreux à avoir compris qu'en l'utilisant mieux, eh bien, on allait pouvoir la réintégrer, la remettre au centre de la cité.
Est-ce que d'un point de vue purement économique, cette crise des gilets jaunes vous a bloqué une partie de votre business, tout simplement parce que beaucoup d'entre nous, ou beaucoup de professionnels, ont peut-être moins roulé, ayant peur des blocages ou étant tout simplement bloqués?
Oui, ben écoutez, elle a manifesté de la colère. Je crois que la loi sur l'interdiction de rentrer dans Paris a dû y contribuer. Ça provoque de l'anxiété, de l'angoisse et parfois de la colère. Donc je crois qu'on est dans une société qui est en mutation, on peut le comprendre. Oui, ça occasionne une petite gêne à un moment donné, mais c'est pour du mieux, j'en suis sûr.
C'est pour du mieux. Et quand on parle de mieux, le président a dit qu'il allait défiscaliser une prime de 1 000 euros pour les collaborateurs qui gagnent jusqu'à 3 600 euros net. Chez UCAR, là, vos collaborateurs qui sont en train de vous écouter, ils vont passer un meilleur Noël ? Ils vont avoir un petit peu de sous en plus ?
En général, ils passent un meilleur Noël parce qu'ils ont toujours quelque chose à ce moment-là de
mais ils auront un petit peu plus que ce que vous aviez prévu grâce au fait que ce soit défiscalisé ?
Écoutez, je trouve que c'est une bonne idée et ça incite effectivement à donner davantage.
Du coup, vous, à titre personnel chez UCAR, vous allez donner...
Il peut me faire dire oui, je vais dire oui.
Ah, vous allez dire oui, voilà. Bah, au moins, si vos syndicats et vos équipes vous ont entendu, ils savent qu'ils peuvent taper à votre porte demain matin. Un gros merci, Jean-Claude Berthaud-Salavert, le patron d'UCAR, d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. On se retrouve demain, 22h20.
À demain, Emmanuel Dutheil. Et bien sûr, hein, si vous voulez retrouver cette interview dans son intégralité, rendez-vous sur le site d'Europe 1, europe1.fr. Dans un instant, on est plus les unes de vos quotidiens de demain. À tout de suite. À la une de vos quotidiens demain, la CB avant le CV. Libération consacre un dossier sur la situation des étudiants étrangers et le projet du gouvernement. Les frais d'inscription pourraient être multipliés par 15 pour les jeunes non-européens qui s'inscrivent dans les facs françaises. Une mesure censée rendre la France plus attractive, mais qui provoque un tollé, nous dit le quotidien. Le gouvernement veut rendre la France plus attractive. Il souhaite également relancer l'industrie. L'exécutif veut peser sur la politique industrielle de l'Union européenne, nous disent les Échos. Un plan d'action serait en préparation pour lutter notamment contre l'endettement des entreprises françaises qui dépasse les 130% du PIB. 130% du PIB, c'est bien loin devant l'Espagne, l'Italie ou encore l'Allemagne. Demain, dans vos kiosques, vous verrez également cette photo. Un petit garçon sur les épaules de son père, pieds nus, le regard dans le vide. Ce cliché a été pris sur l'île grecque de Lesbos, dans un camp de réfugiés. Il fait la une de La Croix à l'occasion de la Journée nationale des migrants. Le quotidien consacre un dossier à cette question des réfugiés en Europe. Et puis le gratuit 20 minutes se pose lui une question demain. Et si les chefs d'État étaient jugés pour crimes contre l'humanité au regard des dégâts causés par le réchauffement climatique? Le droit pénal international ne le permet pas encore, mais certaines voix s'élèvent et appellent à des sanctions de plus en plus fortes. Voilà pour la presse de demain. Merci d'écouter Europe 1. Il est 22h et bientôt 30 minutes. Excellente soirée. Tout de suite, c'est la libre antenne de Sophie Peters. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Marguerite.
Vous accueillez les auditeurs jusqu'à 1h du matin.
Absolument, 39-21 et on se retrouve à 22h58 pour un point sur l'info.
À tout à l'heure. À tout.